Tu ne fais pas partie du gratin? Tu ne connais pas la cousine de la grand-mère de Britney? Pas de panique! Trent Mix Radio te déroule le tapis rouge. C'est la rencontre VIP. La rencontre VIP. Avec Trent.
Salut tout le monde, c'est Trent. Et oui, cette année, Trent Mix Radio est à Bourges pour vous rapporter un maximum de très jolies interviews. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a énormément d'artistes qui jouent toute la journée. Nous, on va aller se mettre au calme pour partir à la rencontre d'un artiste qu'on adore, qui a sorti son deuxième album qui s'appelle Let It Glow, qui a été nommé deux fois aux Victoires de la Musique, rien que ça. Il s'appelle Rover et j'ai vraiment, vraiment hâte de lui poser mes trois questions. Allez, venez avec moi. Rover, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Trent Mix Radio dans le cadre du Printemps de Bourges. Alors, tu es quelqu'un qui est connu sans être connu. C'est-à-dire que tu as vadrouillé énormément. Tu as été nommé quand même deux fois aux Victoires de la Musique, ce qui n'est pas rien. Alors, il y a une petite histoire sur le premier album qui t'a fait connaître. D'après ce que j'ai compris, tu étais installé au Liban et tu as été expulsé du Liban suite à des histoires de papiers que tu n'as pas pu faire renouveler. Donc, tu es allé te réfugier en Bretagne et de là est sorti ton premier album. C'est-à-dire que tu t'es isolé et puis tu t'es mis à composer, à écrire et tu as fait absolument tous les instruments. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que sur Let It Glow, sur le deuxième, tu as eu cette démarche-là aussi, c'est-à-dire de tout faire tout seul?
Exactement la même. C'est qu'il y a une démarche qui m'est propre. J'utilise les mêmes instruments. L'homme a changé, forcément, parce qu'il y a une tournée, il y a eu des années de 3 ans qui sont passées.
D'accord.
Mais la démarche, en tout cas créative, le moment où j'écris les chansons, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être dans un lieu loin de certains repères, loin de Paris en tout cas,
une mise en danger peut-être,
et dans une, pas une mise en danger, mais une zone un peu d'inconfort qui est liée au voyage, qui est liée à la découverte d'une ville, d'autres mœurs, d'autres ambiances, d'autres quotidiens, ouais. Un quotidien qui est différent en tout cas. Donc j'écris seul, j'arrange seul les chansons et j'interprète quasiment tous les instruments. Alors sur le premier disque, j'avais joué tous les instruments tout seul, de A à Z, et là j'ai invité le batteur qui m'avait accompagné sur la première tournée à me rejoindre en studio, qu'il a gentiment accepté. Et il a été fascinant à avoir travaillé à mes côtés. Voilà, j'ai eu aussi une forme d'intimité en studio qui m'est chère, et j'ai parfois peut-être du mal à ouvrir les portes à beaucoup de musiciens.
Oui.
Et par plaisir égoïste aussi, j'aime jouer tous les instruments, même si c'est mal joué, mais au moins ils sont faits avec une forme d'honnêteté, et ça me plaît. J'aime les effets de compensation, quand on a une faiblesse sur un instrument, d'aller s'appliquer sur un autre pour compenser. Du coup, ça crée des sinusoïdes comme ça émotionnelles fascinantes en studio. Et on a enregistré dans un studio en Bretagne, qui est un studio 100% analogique.
D'accord.
Qui s'appelle Kerwax, qui est un endroit assez extraordinaire. Et qui a contribué, qui a nourri le disque, qui a permis de lui donner cette couleur, cette consistance, à mon goût, que j'avais au fond de la tête, qui est dur à nommer quand on rentre en studio. On ne sait pas vraiment, on a des idées, on a des références, on a des couleurs, des saveurs, une forme d'acidité dans la guitare, une largeur dans la basse, des mots comme ça. Mais c'est que quand on fait tourner le magnéto et qu'on enregistre, qu'on se rend compte qu'on est dans le bon endroit, au bon moment, pour faire la musique.
Et alors du coup, tu as une vision du live qui est quand même assez rigolote. C'est que j'ai lu dans une interview que tu disais que quand tu arrivais sur scène, ça te faisait bizarre de voir ta musique être exposée, et surtout avec des moyens de fou. C'est-à-dire que ça donne une ampleur énorme à ta musique, t'ayant vu sur scène déjà. C'est vrai que c'est quand même très très impressionnant. Comment tu le perçois, le live?
C'est l'occasion de réécouter son disque surtout, et de l'entendre jouer en live fort, avec des instruments, avec des imperfections, encore plus d'imperfections. C'est ce qui me plaît sur les disques. Moi, je suis quelqu'un qui accepte les imperfections d'interprétation. Ou ce qu'on appelle les imperfections, c'est des bruits de chaise, des bruits liés à la vie qui tournent autour de la musique, ne pas rendre la musique clinique.
Oui, bien sûr.
Donc l'enregistrement analogique le permet, le fait d'accepter ce qui se passe autour d'un musicien qui se met à son instrument et de le laisser sur un disque permet ça, permet de rendre les disques plus vivants à mon goût. Sur scène, il y a cette possibilité en plus de réinventer le disque tous les soirs, non seulement de l'écouter, jouer en live et d'être témoin de ça et d'être aux commandes, mais en plus de rallonger des parties, d'en raccourcir d'autres, de jouer plus vite. Parfois consciemment ou inconsciemment, il y a des salles qui se prêtent à jouer tout très rapidement parce qu'on est dans une énergie particulière, parce que le public se lève tout de suite et est électrique. Et d'autres salles, selon les régions, les endroits où on joue, si on a bien dormi ou pas, les gens sont, comme on dit en anglais, cocooned, ils sont dans un lit en coton à écouter la musique ils ont presque pas envie d'être vus, ni par moi, ni par leurs voisins. Quelque chose de très solitaire. Et la musique a ça de magique, c'est qu'elle se, elle se plie au moment. Et le live est un véritable miroir de ça. On est témoins, nous, même si on voulait jouer plus dans l'énergie, ouais. on s'adapte au lieu, à la façon dont la musique résonne dans une salle, si c'est un théâtre feutré ou si c'est une salle comme ce soir qui est plus, plus aérienne, plus
ouais,
grande.
Ouais, c'est vrai.
Et cet aspect organique qui fait que les concerts peuvent après être uniques et que les disques peuvent être irréproduisibles. On capte un moment dans un instant T et on le photographie à tout jamais.
Et ta réputation d'amoureux de la littérature, t'as pas perdu en tout cas.
Et avec force.
Avec force. C'est absolument magnifique. Robert, j'ai une dernière question. Tu es quelqu'un qui visiblement aime la nuit, aime le monde de la nuit. C'est vrai que tu t'habilles toujours en noir, je sais pas si c'est volontaire.
La lessive est moins chère, c'est pour ça. C'est vraiment une histoire
voilà.
lessive.
Non, ça c'est faux.
Ça me va bien.
T'es top classe. Du coup, t'as des lunettes noires, Mais c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est vrai que c'est une ambiance un petit peu nocturne. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces moments nocturnes, ces moments de nuit?
Le fait d'écrire la nuit, il y a une... Pareil, c'est je suis pourtant pas un oiseau de nuit, j'ai juste des moments de... On ne contrôle pas forcément les moments où la musique vous appelle au piano, vous appelle vers la guitare, mais c'est souvent des moments de transition. Ce que j'appelle écrire de nuit, c'est là où normalement on irait se coucher comme un être humain normal, vers 11h ou minuit, je ne sais pas si on est selon son rythme de vie, mais
oui.
Bah, passé minuit, il se passe des choses. Entre minuit et 3h, on est dans un état où le corps peut-être demande à aller se coucher, bah justement dans la créativité, dans l'écriture. Il y a un oubli de soi, il y a le silence qui s'installe dans la ville ou dans la campagne, où qu'on soit. Il y a quelque chose dans l'air qui est assez curieux, dans les transitions réelles,
oui,
de pleine nuit.
Vrai.
Et les matins ont ça aussi. Juste là où on se réveille, on est entre deux eaux, on est entre deux rêves. Et je sais que pour l'écriture, il y a une facilité, il y a une fluidité qui moi me plaît. Moi en tout cas, je me sens très foudroyant à ces moments-là de la journée. C'est moins laborieux. À 15h après avoir soupé ou après avoir mangé. Il y a quelque chose qui nous échappe. On oublie notre corps, on oublie notre état. Et en même temps, il y a des petits rappels. On a à la fois faim, on a envie d'un café, on a des trucs. Et ça revient par pic, donc on écrit dans une forme d'urgence. Et cette urgence-là est précieuse.
C'est vrai,
Et la nuit le permet. Et on a l'impression aussi, égoïstement, de prendre du temps sur les autres. Donc je pense qu'il y a de ça. Les gens qui vivent la nuit, qui écrivent la nuit, ont le sentiment d'avoir des journées à rallonge. Et d'avoir tout le temps. Ils se disent que le lendemain, ils peuvent aussi continuer à écrire comme un emploi du temps normal. Voilà. Moi, j'étais comme ça étudiant aussi. Je faisais mes devoirs très tard. Et j'avais l'impression d'avoir eu ma journée et puis de prendre du temps sur les autres.
Eh bien, je crois qu'on a au moins un point en commun quand on a fait la fac. Merci infiniment, Rover. À très bientôt.